Chapitre 171. De l'autre côté de la vitre, les immeubles des alentours étaient plongés dans le noir, signe que la panne d'électricité affectait tout le quartier. La douleur fulgurante provoquée initialement par la blessure de Jane avait cédé la place à un mal lancinant nettement plus supportable. Elle rechargea ses pistolets, replaça l'un des deux dans son holster et regarda longuement le spectacle de la métropole dégoûtante de pluie, avec le sentiment de se trouver en équilibre instable entre deux mondes. Celui qui existait depuis la nuit des temps, et celui qui s'annonçait en cette ère d'utopie criminelle. Elle pensa aux mots d'Edgar Poe dans La Cité et en la mer, où les bons et les mauvais, les pires et les meilleurs, s'en sont allés au repos éternel. Une fois qu'aurait déferlé la vague du changement, il n'y aurait plus de repos dans l'ordre nouveau, à celui-ci succéderait la paix de la soumission, ou bien la mort. Celle-ci avait emporté bien des âmes sombres liées à cette ville, mais la pire de toutes restait vivante un étage plus haut, et il était temps que Jane éradique ce mal. Un pistolet dans une main et une lampe de poche dans l'autre, elle traversa l'immense plateau en enjambant les dépouilles qui en jonchaient le sol, et s'arrêta sur le seuil de l'appartement réservé aux rez-de-chaussée. En guise de lit, on ne leur avait concédé que de mauvais matelas posés à même le sol, et la cuisine se limitait à un frigo et un micro-ondes. Une douche, des toilettes, un lavabo, le tout acheté à l'économie au cœur de cet immeuble qui respirait l'opulence. Ni fauteuil, ni canapé, pas de télévision, mais une table et quatre chaises où ils mangeaient et passaient le temps en jouant aux cartes, tels des moteurs au ralenti dans l'attente d'un coup d'accélérateur. Personne n'avait vécu là. Les cerveaux des quatre rez-de-chaussée avaient été dépouillés de leur frondaison splendide pour ne laisser place qu'à une poignée de feuilles desséchées, alors que les hommes qu'ils avaient été devenaient de simples machines à tuer de chair et d'os. Elle retira son manteau, l'accrocha au dossier d'une chaise et sortit de son jean le pan de sa chemise afin d'examiner son flanc gauche à la lueur de la torche. La balle s'était contentée de labourer son côté à hauteur des poignées d'amour, si elle en avait eu. La plaie, relativement profonde, s'étalait sur une dizaine de centimètres. Le projectile n'avait touché aucune artère, le sang qui s'écoulait provenait de capillaires déchirés. La chaleur de la balle avait cautérisé en partie la plaie, tout au plus risquait-elle de perdre un demi-litre de sang. Elle devrait veiller à ce que la plaie ne s'infecte pas, mais il serait toujours temps de s'en occuper plus tard. Elle remit sa chemise dans son pantalon de façon à compresser la blessure et récupéra son manteau. La panne l'ayant privée de caméra, DJ avait toutes les chances de croire qu'elle était morte, mais rien ne disait qu'il attendrait le retour de l'électricité pour en avoir la confirmation. Il lui suffisait d'appeler à l'aide les rez-de-chaussée cantonnés au 9e étage. En clair, s'il n'était pas déjà trop tard, Jane comprit que le temps lui était compté. Elle posa la torche dans un coin de façon que son pinceau se reflète sur le mur blanc et l'éclaire suffisamment, puis elle rangea le calibre 45 dans son holster, et tira de l'arsenal qu'elle portait à la ceinture un couteau à découper les cloisons. Wilson Faucher avait découvert un passage secret reliant le 7e au 8e étage sans passer par la porte blindée installée dans l'escalier. Jane découpa dans une plaque de plâtre un trou d'un mètre sur deux et fit courir le rayon de sa lampe de l'autre côté de la cloison. Comme elle s'y attendait, elle trouva un conduit bétonné dans lequel passaient les tuyaux de plomberie des deux derniers étages de l'immeuble, ainsi qu'un large fourreau contenant toute l'accablerie des appartements supérieurs. La gaine de service était assez large pour permettre à un intrus de grimper jusqu'au 8e. Jane fixa la lampe à son manteau, puis elle se glissa dans le conduit et entama son ascension en se servant des rails métalliques de la cloison en guise d'échelle. Loin de la handicapée, la douleur liée à sa blessure la dopait en la poussant à oublier son corps par la seule force de sa volonté. Découper la plaque de plâtre avait forcément fait du bruit. Mais à en juger par le degré d'isolation phonique du bâtiment, il était peu probable que DJ Michael l'ait entendu. Sans parler de l'orage qui grondait à l'extérieur. En outre, le conduit donnait au 8e sur un placard technique excentré par rapport aux principales pièces à vivre du milliardaire. Elle franchit sans encombre le trou du sol en béton du 8e à travers lequel passaient tous les tuyaux, puis elle entama la plaque de plâtre à l'aide de son couteau et découvrit un local technique. Wilson Faucheur ne s'était pas trompé. Elle sortit de la banane accrochée à sa ceinture un autre accessoire acheté à Reseda. Une caméra Patrolaze, conçue pour les patrouilles de police, dont elle passa la lanière autour de son cou. L'appareil pesant moins de 200 grammes était capable d'enregistrer plusieurs heures d'images et de sons en haute définition. Elle ramassa son pistolet, éteignit la torche et ouvrit la porte du local technique. En dépit de la panne, l'immense appartement de DJ Michael était brillamment éclairé, preuve qu'il disposait d'une génératrice autonome.